Chapitre 12. Introduction du candidat dans la loge. Le frère introducteur conduit le candidat à pas libre vers la porte principale de la loge, où il l'annonce en le faisant frapper avec le poing par trois coups également détachés. Dès la première ouverture, le frère proposant entrera, tenant en main la boîte où sont les métaux et bijoux du candidat, qu'il ira déposer entre les mains du vénérable maître. Aussitôt que le candidat a frappé, le vénérable maître bat un coup de maillet sur l'autel qui est répété avec vivacité par les deux surveillants et dit
« Frère surveillant, j'ai entendu frapper, voyez qui c'est. »
Le frère second surveillant va frapper à son tour trois coups égaux contre la porte en dedans. Et de suite, il l'ouvre rapidement en disant d'un ton grave et sévère
« Qui est-ce qui frappe ainsi ?»
Le frère second surveillant laisse entrer le frère proposant qui apporte au vénérable maître les métaux et les bijoux.
C'est un homme dans les ténèbres et cherchant la lumière qui demande à être reçu franc-maçon.
Le frère second surveillant ayant refermé la porte répète la réponse au premier surveillant qui la rend au vénérable maître.
C'est un homme dans les ténèbres et cherchant la lumière qui demande à être reçu franc-maçon.
Vénérable maître, c'est un homme dans les ténèbres et cherchant la lumière, qui demande à être reçu franc-maçon.
Le vénérable maître dit
« Frère premier surveillant, quel est son nom de baptême, son nom civil, son âge, le lieu de sa naissance et de son domicile ou résidence, et le nom de baptême de son père ?»
Le premier surveillant dit
« Frère second surveillant, quel est son nom de baptême, son nom civil, son âge, le lieu de sa naissance et de son domicile ou résidence, et le nom de baptême de son père. »
Le frère second surveillant va frapper par trois coups en maçon contre la porte en dedans avant de l'ouvrir, et fait ensuite la même question au frère introducteur, qui répond pour le candidat après l'avoir interrogé pour se mettre en état d'y satisfaire.
« Quel est son nom de baptême, son nom civil, son âge, le lieu de sa naissance et de son domicile ou résidence, et le nom de baptême de son père ?»
Pour éviter aux frères surveillants d'hésiter et de se tromper en rendant ces réponses, on aura soin de faire pour eux deux copies de la feuille sur laquelle le candidat les a écrites lui-même dans la chambre de retraite et que le préparateur a dû apporter au vénérable maître.
Son nom de baptême est, son nom civil est, il a X ans, est né à et habite. Le nom de baptême de son père est.
Le frère second surveillant, après avoir refermé la porte, dit
Frère premier surveillant, son nom de baptême est, son nom civil est, il a an, est né à, et habite, le nom de baptême de son père est.
Le frère premier surveillant dit,
Vénérable maître, son nom de baptême est, son nom civil est, il a X ans, est né à, et habite, le nom de baptême de son père est.
Le vénérable maître dit,
Quelle est sa religion, son état civil ? Et ne serait-il point lié par d'autres engagements qui ne lui permettraient pas de contracter l'obligation des maçons ou qui seraient incompatibles avec elle ?
Le frère premier surveillant dit alors
« Quelle est sa religion, son état civil, et ne serait-il point lié par d'autres engagements qui ne lui permettraient pas de contracter l'obligation des maçons ou qui seraient incompatibles avec elle ?»
Le frère second surveillant, s'adressant au frère introducteur en ouvrant la porte pour la transmettre, dit
« Quelle est sa religion, son état civil, et ne serait-il point lié par d'autres engagements qui ne lui permettraient pas de contracter l'obligation des maçons ou qui seraient incompatibles avec elle ?»«
Il est de religion, il est état civil, et n'est point lié par d'autres engagements qui ne lui permettraient de pas de contracter l'obligation des maçons ou qui seraient incompatibles avec elle. »
Le frère second surveillant, ayant refermé la porte, dit
« Frère premier surveillant, il est de religion. Il est état civil et n'est point lié par d'autres engagements qui ne lui permettraient pas de contracter l'obligation des maçons ou qui seraient incompatibles avec elle. »
Le frère premier surveillant dit
« Vénérable maître, il est de religion. Il est état civil et n'est point lié par d'autres engagements qui ne lui permettraient pas de contracter l'obligation des maçons ou qui seraient incompatibles avec elle. »
Le vénérable maître dit
« Frère premier surveillant, est-il disposé à subir les épreuves indispensables, à remplir les devoirs que l'ordre impose à ses membres, et qui est le frère qui répond de cet homme envers l'ordre et envers cette loge ?
Le frère premier surveillant dit
« Frère second surveillant, est-il disposé à subir les épreuves indispensables, à remplir les devoirs que l'ordre impose à ses membres, et qui est le frère qui répond de cet homme envers l'ordre et envers cette loge ?»
Le frère second surveillant dit
« Est-il disposé à subir les épreuves indispensables, à remplir les devoirs que l'ordre impose à ses membres, et qui est le frère qui répond de cet homme envers l'ordre et envers cette loge ?»
Il est disposé à subir les épreuves indispensables, à remplir les devoirs que l'ordre impose à ses membres, et c'est le frère N qui répond de cet homme envers l'ordre et envers cette loge.
Le second surveillant, après avoir refermé la porte, dit
« Frère premier surveillant, il est disposé à subir les épreuves indispensables, à remplir les devoirs que l'ordre impose à ses membres, et c'est le frère N qui répond de cet homme envers l'ordre et envers cette loge. »
Le frère premier surveillant dit
« Vénérable maître, il est disposé à subir les épreuves indispensables, à remplir les devoirs que l'ordre impose à ses membres, et c'est le frère N qui répond de cet homme envers l'ordre et envers cette loge. »
Le vénérable maître dit au frère proposant
« Frère N, le cherchant qui se présente à nous assure que vous répondez de lui à la loge. Vous connaissez à ce titre toute l'étendue de vos devoirs envers l'ordre et de vos obligations envers le candidat. Dites donc, à haute voix, si vous en répondez à l'ordre et à vos frères. »
Le frère proposant ayant répondu affirmativement, le vénérable maître dit
« Mes frères, êtes-vous contents de ce que vous venez d'entendre et consentez-vous à ce que le cherchant qui vous est annoncé soit introduit comme persévérant ?»
Il frappe seul un coup d'ordre pour le consentement qui se donne dans la forme accoutumée et dit
« Frère N, la loge accepte votre déclaration et votre engagement en faveur du candidat dans la ferme persuasion qu'elle n'aura jamais lieu de s'en repentir. Elle vous a déjà agréé pour le parrain du cherchant qu'elle va reconnaître maçon, et dès ce moment, vous êtes spécialement chargé de l'instruire des devoirs qui lui seront imposés dans le grade d'apprenti. »
Le vénérable maître frappe un coup qui est répété par les deux surveillants.
« Mes frères, formez la loge. »
Aussitôt, les frères viennent en silence se ranger autour du tapis dans l'ordre qui suit. Les apprentis et les compagnons vont se placer à l'occident, entre le tapis et les tables des surveillants. Ensuite, les maîtres quittent leur place et vont se ranger sur les deux colonnes depuis l'occident. En remontant jusqu'à peu près au milieu de la longueur du tapis, les frères des hauts grades vont prendre place en prolongeant la colonne depuis les maîtres jusqu'aux angles d'Orient, les dignitaires, les vénérables maîtres et autres qui siègent à l'Orient, entre l'autel et le tapis, en face des apprentis et des compagnons. Les frères viendront donc successivement autour du tapis, dans l'ordre de leur grade, en commençant par les apprentis, car c'est ainsi que doit se former la loge, et le maître de cérémonie devra veiller sur ce travail pour qu'il se fasse régulièrement et sans confusion. Les frères, en formant la loge, observeront de laisser entre eux, dans les régions où sont placés les éléments, un intervalle suffisant pour que le candidat puisse subir les épreuves à la vue de tous les frères. Chaque classe, si le nombre l'exige, double le rang dans la place qui lui est assignée. Le vénérable maître et les surveillants restent seuls à leur place ordinaire, de sorte que le candidat, dans ses voyages, parcourt une ligne presque circulaire, extérieure à la loge formée par les frères, passant derrière l'autel d'Orient et les sièges des surveillants. Dans cet intervalle, les frères qui ont été nommés adjoints aux frères maîtres de cérémonie vérifient et mettent à portée des frères qui doivent en faire l'emploi. 1. Les tuyaux ou cylindres creux pour envelopper les 9 lumières d'ordre, lesquelles ne doivent jamais être éteintes avant la clôture de la loge. 2. La terrine dans laquelle on verse une petite quantité d'esprit de vin. 3. La machine pour imiter le bruit du tonnerre, le maître de cérémonie ayant désigné un frère pour remplir cette fonction à la fin de chacun des voyages. 4. Le roseau garni de l'étoupe fine qui doit être embrasé par le second surveillant lorsqu'on rend la lumière au candidat. Tout étant disposé, le vénérable maître frappe encore un coup qui est aussitôt répété par les surveillants et dit
« Mes frères, la sagesse appelle ceux qui sont éloignés afin qu'ils ne le soient plus. Frère premier surveillant, puisque cet homme, après avoir cherché la vérité avec ardeur, persévère dans son désir qu'il soit introduit. Le frère premier surveillant dit :
Frère second surveillant, puisque cet homme, après avoir cherché la vérité avec ardeur, persévère dans son désir qu'il soit introduit.
Le frère second surveillant va frapper 3 coups en maçon contre la porte. Le frère introducteur y ayant répondu, le second surveillant ouvre rapidement la porte en entier et lui dit avec gravité et d'un ton modéré :
Mon frère, le vénérable maître permet que vous introduisiez le cherchant qui persévère dans son désir.